Rebonjour, Monsieur Paradis. On va donc poursuivre avec cette fois peut-être davantage de dossiers plus ponctuels, plus précis. Vous en avez fait un credo, vous l'avez répété à plusieurs reprises, encore ces derniers jours au Salon international de l'alimentation de Montréal. Le bio, les produits très typés, très spécifiques, ça c'est quelque chose d'important pour vous dans le contexte où on doit diversifier notre agriculture, multiplier les productions, ouvrir les marchés.
Il faut être capable de tenir en équilibre ce qu'on appelle une économie agroalimentaire forte qui nous permet d'aller à l'assaut des marchés étrangers. En même temps, il nous faut absolument avoir des circuits courts, des circuits biologiques, des productions émergentes qui sont accessibles à nos jeunes. Dans les productions sous gestion de l'offre, l'achat du quota ou du droit de produire est une barrière assez importante, bien que les fédérations fassent des efforts pour avoir des programmes particuliers pour la relève. Dans les productions plus traditionnelles, c'est plus massif, le porc, etc. Mais quand vous tombez dans nos fromages fins, quand vous tombez dans nos boissons alcooliques du terroir, quand vous tombez dans nos canneberges, dans nos bleuets, dans tous ces éléments-là, il y a un créneau qui s'offre à nous, à cause de notre climat, le biologique est plus facile à atteindre. On peut aller chercher plus facilement parce qu'on est moins exposé aux maladies, on est moins exposé aux insectes. On travaille fort là-dedans parce que, présentement, le consommateur a pris ce virage-là et on le satisfait à 30 % à partir des produits du Québec. On est obligé d'en importer 70 % c'est pas quelque chose qui est correct. Et les gens qui prennent ce virage-là, se rendre compte que c'est rentable. Moi, j'étais au Serre-le-Fort il n'y a pas longtemps, puis je vais vous compter, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le dire publiquement, mais M. Lefort a de la belle relève avec sa fille. Sa fille l'a convaincu il y a 3 ans de mettre quelques acres de terrain en biologique. Le père y croyait plus ou moins, pensait que c'était quelque chose dans lequel il était pour perdre de l'argent. Il se rend compte que c'est quelque chose avec lequel c'est plus rentable que tous les autres secteurs qu'il a en production. Et là, il prend le virage de façon majeure. Mais ça, ça se passe dans les serres, ça se passe dans le lait, ça se passe dans les céréales, ça se passe un peu partout, ça se passe dans les petits fruits. Puis moi, je pense qu'on a une possibilité d'enrichir notre monde, puis d'occuper notre territoire, puis de savourer les produits.
Justement, vous parliez des serres avec les serres Lefort. Il y a d'autres gros projets au Québec. Par exemple, Saint-Félicien, on entend peu parler de ce projet. Là, est-ce que ça aboutit, ça avance?
Ça avance. C'est un projet qui n'est pas évident parce qu'on est plus au nord. Donc, les coûts d'énergie sont supérieurs, mais parce que vous êtes voisin d'une entreprise qui produit de la vapeur, qui est actionnaire dans le projet, vous arrivez à des coûts de production qui sont corrects. Quant à l'écoulement des produits, vous avez des ententes avec un grand distributeur. Quant à la technologie, vous êtes allé chercher ce qu'il y avait de meilleur sur la planète, en Norvège comme tel. Quant à la gestion du projet, vous avez quelqu'un du monde de la finance qui est associé avec quelqu'un opérateur de commerce dans la région. Donc, c'est créateur d'emplois. Ça va produire des produits frais et ça va développer l'économie de toute cette région-là. Mais là, on en a là-bas, à Saint-Félicien, on en a dans Huntingdon, on en a, j'étais dans le comté de Richmond dernièrement. On commence, puis il y a beaucoup d'espace pour les producteurs en serre. Le ministre des Ressources naturelles vient d'annoncer la mise sur pied d'un groupe de travail pour faire en sorte que le coût de l'énergie qui représente plus de 30 % là, du coût de production comme tel, on le réévalue puis on voit ce qu'on peut faire avec, on n'appelle pas ça nos surplus, mais notre énergie propre, verte, de l'hydroélectricité qui est disponible pour créer des emplois chez nous et pour que nos gens mangent des produits de chez nous.
Allons-y avec un autre sujet, le lait diafiltré, les substances laitières qui entrent au Canada et qui viennent couper, on peut le dire comme ça, couper une bonne part des revenus des agriculteurs, des producteurs laitiers. C'est un secteur qui allait bien, qui allait très bien ces dernières années, jusqu'à ces dernières années, mais maintenant, il y a des pertes réelles pour ces producteurs-là. Est-ce que le dossier avance? Parce que les gens disent que c'est très urgent, là.
C'est le dossier qui m'inquiète le plus présentement et sur lequel on consacre le maximum de nos énergies. Moi, je pensais qu'après avoir négocié avec l'Union européenne, on savait à quoi s'en tenir, 17 700 tonnes de fromage. Après avoir négocié avec l'Asie-Pacifique, c'était 3,25 3,5. On savait, là, pour les 25 prochaines années où on s'en allait, nos jeunes pouvaient aller à la banque, nos transferts de femmes pouvaient se faire. Et là, parce que le gouvernement fédéral n'applique pas une règle. On ne veut pas de nouveau règlement, là. On ne veut pas de nouvelle loi. On veut juste que ce qui existe puisse s'appliquer. Le camionneur qui arrive aux douanes canadiennes déclare qu'il a dans son bol tank en arrière là, des protéines alimentaires, parce qu'il ne veut pas dire que c'est du lait, sinon il sera obligé de payer des douanes importantes. L'Agence canadienne des douanes le croit, le laisse passer. Et là, la seconde qui a passé la douane, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a dit « c'est pas une vraie déclaration, c'est du lait ». Là, les autorise à le mettre dans le fromage puis dans le yogourt. Moi, je veux garder des bonnes relations avec mes amis des États-Unis. Je veux le croire quand ils traversent la douane. J'y change pas de droit de douane, mais j'y changerai pas la nature de son produit, mais quand il traverse la douane, il va avoir encore des protéines alimentaires, puis ça sera pas du lait. Puis si l'Agence canadienne applique la réglementation, on va régler le problème. Puis là, mon producteur laitier qui perd entre 500 et 1000 $ par semaine sur son chèque de paye, va pouvoir revenir là où il était avant que cette situation arrive. Le gouvernement fédéral s'est engagé à corriger ça à l'occasion de la dernière campagne électorale. Ça fait plus de 6 mois, puis c'est à chaque semaine que le producteur paie.
Il y a aussi le secteur de la volaille qui fait face à des problèmes de genre-là, peut-être dans une moindre mesure, mais c'est quand même important pour les producteurs de volaille.
Il faut, à ce moment-ci, et le Québec a commencé parce que le gouvernement précédent ne croit pas beaucoup aux réunions fédérales, provinciales, territoriales. On a commencé à rebâtir à partir de Winnipeg en 2014, puis de Charlottetown en 2015, une espèce de solidité à travers le Canada de l'ensemble des ministres de l'Agriculture. Et là, on insiste, et c'est dans le communiqué de la fin des deux conférences sur la réciprocité des normes. Ce qu'on exige chez nous, sur le plan environnemental, sur le plan bien-être animal, sur le plan salubrité, bien, les produits qui rentrent chez nous doivent correspondre aux mêmes normes. Et quand il est question de gestion de l'offre, on a insisté sur une application correcte des normes aux douanes. Il y a du monde qui ont tendance à tricher. Ils passent de la poule de réforme ou du poulet. Quand il y a des droits de douane qui ne s'appliquent pas de suite puis qui ont 3-4 ans pour les payer, bien, ils réexportent du produit puis ils injectent de l'eau dans les cuisses de poulet. Fait que c'est le même poids, mais c'est pas la même affaire. Il y a toutes sortes de trucs qui existent, puis c'est pas compliqué à contrôler parce qu'on les connaît, les trucs.
Allons-y en cascade, là, pourrait-on dire, M. Paradis, maintenant. La luzerne modifiée génétiquement, beaucoup de craintes à ce sujet-là, parce que, justement, on parlait du bio, ça peut venir nuire beaucoup au biologique.
Ça peut venir nuire beaucoup. C'est entré par l'Alberta. Présentement, moi, je suis en communication avec mes homologues des autres provinces canadiennes. Je rencontre le ministre de l'Ontario d'ici 2 semaines. C'est un sujet qui est prioritaire. Mais encore une fois, on va avoir besoin d'une collaboration du gouvernement fédéral. Parce que quand on contrôle l'entrée au pays, que ce soit pour n'importe quel produit, c'est la juridiction fédérale qui s'applique.
Les appellations. Je pense que vous en avez quelques-unes qui sont prêtes, qui sont sur votre bureau.
Ils sont pas sur le bureau, mais ils sont pas loin d'être sur le bureau. C'est quelque chose qui mérite une attention toute particulière. Il faut pas les décerner avec légèreté. Une fois qu'elles ont été décernées, elles garantissent une qualité de produit qui est exceptionnelle et une appellation qui est exceptionnelle. On en a quelques-unes que l'on a mises en application depuis qu'on est arrivé et on a... Il y en a 2-3 autres là, qui sont sur le point d'aboutir. Le lait de la vache canadienne, entre autres.
Fromage artisan. Fermier.
Donc, vous avez la bonne terminologie. Fromage fermier. Le maïs de Neuville.
Bon, donc, des annonces éventuelles dans les prochains mois, peut-être?
Oui, mais en s'assurant que c'est strictement correct. Il y a eu des abus dans le passé, dans ces appellations-là. Pas nécessairement au Québec, mais dans d'autres sociétés. Et on veut s'assurer que le consommateur ne doute pas de ce qui se fait au Québec.
Identification des OGM. Vous discutiez, et je pense que vous discutez encore avec l'Ontario, le Vermont aussi.
Le Vermont, comme tel, fait figure de pionnier dans le domaine. Il y a une législation qui va entrer en vigueur ou en application le 1er juillet cette année. Les grandes multinationales américaines qui fouillent dans le cerveau du consommateur de demain commencent à bouger volontairement. Campbell Soup a annoncé qu'ils étaient pour afficher si leurs produits contenaient des OGM ou pas. General Mills vient de faire de même. Ça s'applique à la grandeur des États-Unis, mais pas encore au Canada. Il y a 2 ans, on a abordé le dossier de notre première rencontre avec l'Ontario, parce que moi, je crois que le triangle de consommateurs Vermont, Québec, Ontario est assez important pour influencer le monde de la distribution puis de la fabrication des aliments. Au début, puis je le dis correctement, l'Ontario ne le voyait pas aussi rapidement que nous. Maintenant, l'Ontario insiste que ce soit inscrit à l'occasion de notre prochaine rencontre bilatérale. Il surveille ce qui se passe du côté américain. Moi, j'ai l'impression que c'est un dossier qui va bouger correctement dans le sens du droit du consommateur à savoir ce qu'il consomme au cours des prochains mois. Puis si je veux être prudent, je vais dire des prochaines années, mais c'est un dossier qui est appelé à aboutir.
On pourrait aborder tellement d'autres sujets, M. Paradis, mais je vous suggère qu'on termine notre échange sur votre sommet de l'alimentation. Où en êtes-vous et qu'est-ce qu'il sera, ce sommet de l'alimentation?
Mais je veux qu'il soit tout autre chose que la dernière politique alimentaire a été, là, celle qui a été qualifiée par M. Garon de politique de colon. Donc, ça va prendre plus de temps que les gens s'attendent, plus de participation. Il y a des éléments qui sont habitués à participer à ces sommets-là. Le monde des producteurs comme tel, l'UPA, etc., sont bien organisés. Le monde des fabricants, le monde des distributeurs. Un monde qui a été absent de toutes ces politiques, ça a été le monde des consommateurs. C'est le plus difficile à organiser. Vous l'organisez comment, le consommateur, pour qu'il vienne faire état de ses besoins, de ses désirs, de ses anticipations, de son goût de se nourrir. Et c'est là-dessus que l'on travaille présentement. Et on va le faire en 4 phases. La première phase va être celle des consommateurs pour définir les besoins. La deuxième va être transformateur-distributeur. La troisième va être producteur. Et la quatrième va être tout le monde ensemble, dans la même direction.
Mais vous dites un peu plus long que prévu, donc on peut penser que ça déborderait sur 2017?
Un genre de politique comme celle-là, si elle est bien faite, elle résiste à l'épreuve du temps, même si les changements sont rapides aujourd'hui dans la société québécoise, c'est une politique qui va être là pour la prochaine décennie, pour le prochain quart de siècle. Donc, il faut s'assurer qu'elle repose sur des bases solides, sur ce qu'il y a de meilleur comme connaissance au monde et que l'ensemble de la population y participe.
Donc, en conclusion, les résultats de ce sommet seraient un peu la base de votre travail pour les 2 prochaines années. On est à mi-mandat là, du gouvernement, là, donc on peut penser que ça vous servirait d'assise. Là.
Le sommet est une des pierres d'assise de la 2e partie du mandat. Et s'il est réussi, ce que je souhaite, avec la participation, on a beaucoup d'intérêt, les gens nous écrivent déjà, les gens veulent participer, ça va être la pierre d'assise de ce que va constituer la politique alimentaire du Québec pour la prochaine décennie, donc pour les 2-3 prochaines élections.
Monsieur Paradis, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.